Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Le sport comme vecteur d'émancipation féminine, mais aussi comme filon entrepreneurial. On y va pour les détails avec ma femme d'aujourd'hui.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Zineb Benouna, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, la Zineb?
Merci pour l'invitation, ça va super bien. Il commence à faire beau, tout va bien.
Beau, mais assez chaud quand même.
Ouais, mais on l'attendait quand même, après l'hiver qu'on a eu, on attendait un petit peu de chaleur.
Ouais. Bon, allez, Zineb, on va apprendre à te connaître un peu plus en détail et toutes ces différentes casquettes que tu as. Alors, un, tu es créatrice d'expériences sportives en entreprise. On va comprendre comment tu en es arrivée à ça. Tu es fondatrice du RedMed, tu es marathonienne et tu es secrétaire générale de l'association Les Amis du Ruban Rose. C'est bien ça?
C'est ça, et ex-vice-président de la Fédération marocaine des professionnels du sport.
Magnifique. Alors, première question d'abord. Comment es-tu arrivée à la rencontre de l'association Les Amis du Ruban Rose?
Alors ça, j'adore raconter cette histoire, parce qu'elle fait partie de notre histoire avec le Ruban Rose. Je faisais partie du comité d'organisation du Marathon de Casa en 2014. En fait, c'est plusieurs années, mais en 2014, on reçoit un message sur la page Facebook du marathon en disant « Bonjour, nous sommes un groupe de femmes en rémission du cancer, on aimerait courir le marathon. »
Magnifique.
Donc, j'appelle, puis la dame, je lui dis « Écoutez, madame, le marathon, c'est trop long pour vous. » Elle me dit « Semi », je lui dis « Semi, c'est trop long. » Bon, en tout cas, on finit par trouver un arrangement. Elle me dit « On sera une dizaine. » J'ai dit « Il n'y a pas de problème. » Et au fur et à mesure qu'on a travaillé avec eux, on leur a fait, le directeur du marathon a été exceptionnel, il leur a fait un passage juste pour elles sur les 3 derniers kilomètres, c'était sur la corniche à l'époque de Casa où ça arrivait à la mosquée, donc l'arrivée était magnifique. Donc on leur a fait un petit tracé comme ça pour elles, et au final elles sont arrivées à plus de 100, avec le corps médical, les actrices supportrices, les familles, les bébés, c'était une opération incroyable. Et j'étais tellement touchée, en plus ma maman venait de passer par là aussi, donc j'étais personnellement touchée. Que là, je suis allée voir la présidente, j'ai dit bon, que maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
La Tefa Chérif, c'est ça?
La Tefa Chérif, présidente des Amis du Ruban Rose. Et notre aventure, et en fait, ils étaient en train de, avec son comité, de créer l'association à ce moment-là. Moi, je n'étais pas rentrée encore dans l'association, d'ailleurs, c'est très très récent que je sois dans le comité, mais parce que je n'ai jamais demandé à l'être et que je ne fais pas partie de ces femmes en rémission. Parce que c'était ça le principe aussi, c'était que ce soit elle qui soit dans le comité. Et moi, du coup, j'ai pris en charge toute la partie sportive de l'association. Et de là, on a vécu mais mille et une aventures. Quoi.
Magnifique.
En 10 ans, il s'est passé mille et une choses. Et je suis très, très fière de voir ce qui se passe aujourd'hui parce que je ne suis plus très active. Mais là où je suis très fière, c'est de voir comment elles ont pris le relais. Elles ont monté leur groupe de marche, elles se challengent entre elles. Et dès qu'on les invite sur un événement, elles viennent et elles sont prêtes. C'est-à-dire qu'elles sont entraînées. Et voilà, c'est une très belle histoire.
Oui, après, absolument.
Pendant des heures, parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Mais
alors,
en tout cas, bravo à la TFA d'avoir cette sensibilité aussi, d'avoir compris que le sport faisait partie de la rémission de ces femmes-là.
Oui, ouais. La TFA elle-même étant passée par ça.
Et
voilà. Et puis, elle a tout mis en œuvre pour se former, étudier, apprendre et donc faire en sorte que cette expérience se traduise par. Des actions concrètes.
C'est ça, et se pérennise aussi.
Tout à fait.
Et puis, on a eu plein de modèles. On a eu plein de jolis modèles dans l'histoire. Donc après, ça influe sur tout le reste, ça inspire et ça fait boule de neige.
Complètement, ouais. Complètement. Alors, cette marmite du sport, tu y es tombée à quel âge, Zineb?
Pardon, je n'ai pas entendu le
début. La marmite du sport.
Ah, la marmite du sport. Alors moi, j'ai beaucoup de chance d'être issue d'une famille très sportive. Donc du sport, on en a toujours fait en famille. Toujours, depuis toute petite. Mais pas comme j'en fais aujourd'hui. On a fait du sport les week-ends. Après étudiant, c'était un peu plus compliqué, mais je continuais quand même. Et quand je suis arrivée à Casa en 2010, j'ai un peu tourné en rond. J'ai découvert la corniche, parce que moi, j'ai grandi à Rabat, donc je découvrais un peu la ville. Et un jour, en 2013, un ami me propose de rejoindre le comité d'organisation du marathon de Casa. Et là, je lui dis, je comprends rien au marathon. Il m'a dit, c'est pas grave. bien travaillé avec nous, puis j'ai embarqué avec eux, et puis au bout de 6 mois, j'ai dit, bah, moi aussi, je veux être marathon.
Marathon.
Moi aussi, je veux être coureuse.
Oui.
Non, à l'époque, c'est juste coureuse. Non, pour moi, le marathon, c'est de la science-fiction à l'époque. Donc, j'ai dit, mais moi aussi, je veux courir, ça a l'air fun, votre truc. Et du coup, j'ai commencé à courir, et puis, à un moment donné, j'en ai fait mon métier aussi, et du coup, quand on commence à courir avec des groupes qui nous entraînent, etc., au bout de 9 mois, je me suis retrouvée à Berlin avec un dossard à courir un marathon et je leur ai dit, mais j'ai jamais prévu de courir un marathon.
Oui.
Et eux, pour rigoler, m'ont dit, mais on te demande pas ton avis dans ce club. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'on est complètement embarqué par cette communauté. Et puis du coup, après, ça y est, ça devient une addiction. Et puis voilà, j'en ai fait mon métier, j'ai monté ma propre communauté et moi-même, j'ai transmis ça à d'autres. Et après, ça y est, après, ça devient un mode de vie.
Mais tu étais dans quoi professionnellement avant ça? Est-ce que tu avais...
J'étais dans la communication. J'étais dans la communication, plus particulièrement dans le digital. Moi, j'ai fait mes études à Paris puis à Montréal. Et à Montréal, à l'époque, le digital était hyper développé par rapport au Maroc. Aujourd'hui, on a rattrapé le retard. Mais en 2009-2010, quand je suis rentrée, je me suis un petit peu ennuyée, disons, dans le digital. Du coup, je me suis un peu cherchée. Je me suis un petit peu cherchée pendant 2-3 ans, jusqu'au moment où je suis tombée, où il y a eu cette rencontre avec le sport. Quand je parle du sport, c'est vraiment au niveau business. Enfin, encore business en 2013, il n'y avait pas encore grand-chose, mais je me suis prise de passion en fait pour ce métier, d'abord d'événementiel, lié au sport, parce que moi, ça donnait un sens.
Oui.
Pour moi, c'était concret. C'est vraiment concret. Je me disais, voilà, faire du bien aux gens et puis monter des événements. Moi, ça m'a toujours passionnée. Même quand j'étais étudiante, je faisais partie du bureau des étudiants. On montait plein de choses. Donc voilà, c'était vraiment à ce moment-là, ça a été la jonction entre l'événementiel et le sport. Et voilà, c'est parti comme ça. Bon, c'est vrai qu'au début, je n'avais pas trop d'idées. Hein. Je me disais, OK, j'ai envie de travailler là-dedans. Et puis, ça s'est construit au fil de l'eau, au fil des années.
Alors, je ne peux pas m'empêcher de te poser une question. En fait, tu as dit, je suis rentrée, donc tu as fait tes études en France, au Canada, dans tout ce qui est digital. Et à l'époque, c'était un peu aussi, encore embryonnaire au niveau du Maroc.
Ouais.
Et donc, tu l'as clairement dit, tu as dit, je me suis quand même ennuyée quand je suis rentrée professionnellement. Est-ce que tu aurais voulu à ce moment-là qu'on vienne, comme on dit, te pêcher parce que tu avais déjà ce savoir-faire, cette expertise internationale qu'on vienne te chercher pour de vrais, grands, beaux projets, pour faire évoluer les choses?
Avec du recul, je me rends compte que non. Peut-être que sur le moment, oui. Surtout que j'ai travaillé vraiment dans les grosses corporations américaines. Donc, je suis arrivée avec un bagage quand même assez, assez sympathique de ce côté-là. Mais avec du recul, je préfère le parcours que j'ai eu après, parce que du coup, je n'aurais pas eu ce parcours-là.
Oui. Non, on est d'accord.
Mais sur le moment, oui, je pense que j'aurais préféré, ouais.
Mais
j'aurais bien aimé faire partie de ce changement, en fait. Oui.
Ouais. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on se pose la question, mais pourquoi, en fait, pourquoi je ne tape pas dans l'œil? Pourquoi on ne vient pas me chercher? Pourquoi est-ce que tu t'es posé ce genre de questions?
Pas du tout. Moi, je suis rentrée en mode, en mode exploratoire. Et en fait, juste, je regardais, je découvrais, je rencontrais des gens et j'écoutais. Et j'essaie juste de comprendre comment cet écosystème fonctionnait. Donc, non, je n'avais pas du tout ce niveau de réflexion à l'époque, pas du tout. Non.
Ok, à quel moment? Donc, 9 mois après, tu l'as dit, tu courais ton premier marathon à Berlin.
Ouais.
Et c'est là où tu t'es dit, y a quelque chose à faire, en fait, d'en faire un événementiel, un filon d'événementiel sportif au Maroc?
C'était avant, c'est en 2013 quand j'ai commencé à travailler avec le marathon de Casa. Et en parallèle, j'avais un très bon ami à moi, un ami d'enfance qui a fait le tour du Maroc en semi-marathon, qui s'appelait Courir le Maroc. Peut-être que vous le connaissez, c'est Ali Elaoui Mdrede. Et
absolument.
Du coup, j'avais coordonné avec lui. Et c'est vrai que je m'étais prise de passion en fait pour tout ce milieu, comment monter les courses. Et c'est à ce moment-là, en fait, que d'ailleurs, c'était avec Ali. C'est à ce moment-là, je lui dis, tu sais, finalement, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis voilà, après il y a eu le marathon, il y a eu, en fait tout s'est passé en même temps, c'est cette année-là entre 2013 et 2014, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre ce virage et d'aller vers le sport.
Alors, tout ça, c'est, on va dire, toi tu es allé vers le sport personnellement, tu as voulu organiser donc de grands événements. Maintenant, pénétrer les entreprises, c'est déjà... sensibiliser, changer le mindset pour qu'on puisse d'abord t'accepter, accepter ton idée, accepter ce que tu proposes. Comment tu t'es pris justement pour planter ta graine à toi.
Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, en 2013, on ne s'introduisait pas encore dans les entreprises. Et les entreprises n'avaient pas encore ce discours. Enfin, on n'arrivait pas à avoir encore ce genre de discours avec eux, bien qu'on avait essayé avec le marathon de Casa de sensibiliser quelques entreprises. Mais c'était très dur parce qu'on n'était pas audible encore à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai une copine qui m'a appelée, qui m'a dit « Est-ce que tu peux organiser des cours de yoga dans mon entreprise ?» C'est comme ça que ça a commencé. Je savais même pas comment ça s'organisait, ni comment facturer, ni quoi que ce soit. Oui. Donc on avait fait une petite opération qui était très sympa. Ça avait bien pris. À midi, on allait, ils avaient des grands locaux, etc. Et puis petit à petit, ensuite, j'ai travaillé sur des gros événements. J'ai travaillé sur un raid à Dakhla où on allait sensibiliser les entreprises. Et puis ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis il y a d'autres acteurs qui sont arrivés aussi sur ce marché-là et qui ont commencé. Ça, c'est un travail collectif. C'était pas que moi. Et aussi, ça s'est beaucoup joué sur le terrain. Parce que justement, quand il y avait des nouveaux qui venaient courir, j'avais commencé à monter ma communauté Mythe de Runner à l'époque, quand il y avait des femmes qui venaient, qui voyaient les bienfaits, etc., on commençait à avoir ce discours des bienfaits du sport, de comment ça impactait les gens dans leur performance, dans leur taux d'absentéisme, dans leur bien-être au quotidien. Et c'est à travers aussi ces gens-là que le discours a pu prendre sa place dans les entreprises. Donc ça s'est fait vraiment petit à petit, mais par un travail vraiment de tout l'écosystème.
Alors,
et puis ensuite,
oui, pardon,
on a monté la fédération, on avait monté la fédération avec certains acteurs, et on a monté la commission sport en entreprise. Et c'est là où vraiment on avait un discours plus structuré, on va dire.
Alors, on va revenir justement à la fédération et à la notion de sport en entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où en sont les entreprises? D'ailleurs, je vais en profiter maintenant. Est-ce qu'il faut absolument être une multinationale ou un très grand groupe pour avoir cette prise de conscience?
Pas du tout. Pas du tout. Ça se passe à tous les niveaux. Ça se passe dans l'associatif, ça se passe dans les PME, dans les TPE, dans les multinationales. Ça se passe vraiment à tous les niveaux. Nous, on voit sur les courses, il y en a qui vont nous envoyer 5 personnes et puis il y en a qui vont nous envoyer 150 personnes. Donc, ça se passe vraiment à tous les niveaux parce que ça impacte vraiment tout le monde. Alors, c'est sûr qu'on est plus audible quand on a affaire à quelqu'un qui est sensibilisé, que ce soit notre interlocuteur ou la direction générale.
Direction générale, DRH.
Voilà, généralement, nos interlocuteurs, c'est très souvent les DRH, ça peut être les directeurs de la communication et des fois, ça peut venir par la direction générale. Et là, on commence à avoir de vraies discussions. Et à mettre en place de vraies actions.
Donc c'est véritablement une prise de conscience presque personnelle du donneur d'ordre ou de vos interlocuteurs.
Alors, au départ, oui, mais maintenant, avec le temps, on voit aussi par les réseaux sociaux aussi, et moi, ça m'est arrivé il y a quelques années, maintenant un peu moins, mais il y a quelques années, quelqu'un qui me disait, des DRH qui me disait, ah oui, il faudrait qu'on fasse aussi pour notre communication. C'est-à-dire que lui, sa préoccupation, c'était
la communication.
Que son entreprise menait des actions de bien-être pour ses collaborateurs parce que ça faisait bien pour sa marque employeur, etc. C'était ça leur préoccupation à l'époque. Mais maintenant, ils ont compris qu'on était allé beaucoup plus loin que ça. Donc maintenant, le discours, il a changé, le discours, il a évolué. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller les convaincre, on a besoin d'aller leur vendre des nouveaux concepts et des nouvelles choses.
Alors, Zineb, justement, en t'écoutant parler, et surtout quand tu as dit ça s'est fait petit à petit, au début, je ne savais même pas combien facturer ces séances de yoga pour cette entreprise. Ouais. En fait, quand on parle d'entrepreneuriat, très souvent, on parle, enfin, la majorité du temps, on parle de business plan, de choses bien stratégiques, avec une vision claire, etc. Et toi, avec toi, j'ai l'impression que tout s'est fait par hasard.
C'est pas une impression.
C'est la vérité.
moi, tout ce que j'ai fait, et j'en ai parlé dernièrement dans un atelier justement sur l'entrepreneuriat, où la dame justement l'a présenté en disant que tout devait être hyper structuré, mais moi, pas du tout. Moi, ça se fait vraiment... je veux dire que tout ça, enfin au début, à un moment donné, on est obligé d'arrêter de structurer ça. Mais au début, les premières années, ça se faisait un peu au gré des rencontres. Ah bah tiens, tu venais bosser avec nous. Ah oui, bonne idée. Ah oui, bah si on faisait ça, ok, bonne idée. Et puis je tâtonnais. En fait, les deux, trois premières années, j'ai tâtonné, j'ai essayé de comprendre comment ça marche. Il y a des gens qui nous la font, excusez-moi du terme, un peu à l'envers parce que voilà, on est un peu pas encore connus. C'est un milieu qui n'était pas structuré aussi. Donc, c'était fait un peu de manière pas très organisée ni construite. Et puis, voilà, en plus, tu te lances, tu ne sais pas trop quoi facturer. On te demande des choses, c'est encore tout nouveau pour nous. Le référentiel n'est pas le même en France ou ici, parce que finalement, on appelle nos contacts en France pour voir comment ça fonctionne, mais on se rend compte qu'ici, ce n'est pas du tout pareil. Donc, au début, ouais, j'ai tâtonné. J'ai tâtonné un petit peu au début. Ça m'a permis de prendre la température. Ça m'a permis aussi d'ouvrir un réseau, de discuter un petit peu à droite à gauche avec tout le monde. Et puis au fur et à mesure, bah ça se construit, ça se structure. Et à un moment donné, oui, à un moment donné, et ça s'est passé. Alors ça s'est passé en plusieurs étapes, mais surtout au moment du Covid. Là, le Covid, ça a donné un gros coup à tout le monde. Et là, on se pose une vraie question. Ok, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc voilà, j'ai commencé à structurer petit à petit. Et puis le vrai tournant, ça a été le Covid. Et à la sortie du Covid, ça a été un business beaucoup plus structuré, beaucoup plus réfléchi qu'avant. Mais en même temps, c'était aussi ce milieu-là qui faisait que. C'est-à-dire que c'était un milieu qui n'était pas construit. On était quelques acteurs à faire ça, donc on se connaissait entre nous. On se consultait. Ok, toi tu fais quoi? Moi je fais ça. Ok, on remonte des événements. Les événements fonctionnaient plus ou moins. On a tous tâtonné au début, jusqu'au moment où on s'est structuré.
Comme quoi, finalement, quand on a un rêve, on peut le porter malgré le fait de ne pas être conventionnel.
Ben, en fait, ça dépend aussi des caractères de chacun. Ouais. Il y en a qui ont besoin d'être rassurés, d'être dans quelque chose de très structuré, de très organisé. Et puis, il y en a d'autres, ils vont juste aller à l'opportunité, ils vont essayer des choses. Pour moi, c'est un peu les vrais entrepreneurs, entre guillemets, c'est ceux qui vont vraiment tenter des choses et qui vont prendre des risques. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, on essaye autre chose jusqu'au moment où on trouve le juste milieu, en fait.
Et là, tu penses que tu as trouvé ta vitesse de croisière?
On est en réajustement permanent, de toute façon, quand on est entrepreneur, quand on est sur des métiers comme ça, c'est-à-dire que on n'est jamais une priorité dans les entreprises.
Absolument.
Et du coup, tout peut basculer. Ouais. Et ça m'est arrivé encore dernièrement où un client t'appelle, il te dit vite, il faut monter des offres, des trucs, des machins. Tout le monde se mobilise, les équipes se mobilisent. Et puis là, ils ne répondent plus. Et puis, ils te rappellent en disant ah oui, non, mais là, on a eu autre chose qui est sortie. Vous, c'est plus tard. Bon. Ça, il faut vivre avec ça. Mais oui, c'est beaucoup plus structuré. Et puis, il y a une expertise qui est développée aussi au fur et à mesure. Hier, j'en parlais avec un ami entrepreneur aussi, où je lui dis, j'ai construit tout un écosystème autour de moi, où aujourd'hui, on est capable d'organiser des événements, mais de manière qualitative et rapide, parce que justement, il y a tout un écosystème autour qui suit, des prestataires, des partenaires.
Oui, qui sont habitués.
Qui sont construits aussi, qui sont hyper habitués. Et du coup, tout ça se construit un petit peu avec le temps.
Alors, tu as aussi, et tu es toujours, je pense, non, tu l'as été pendant quelques années, pendant 7 ans, directrice RAID de la Sahraouia.
Ouais, alors ça a été une belle rencontre aussi avec la fondatrice. Je l'ai rencontrée juste avant qu'elle monte sur RAID, et je l'avais contactée pour autre chose, complètement autre chose. Et puis là, elle me dit, là, je suis sur le point de monter un événement à Dakhla, bien. Et puis on est allé, mais vraiment page blanche. On est parti, on a rencontré des équipes là-bas, etc. Et puis on a monté cette aventure un peu ensemble. Moi, sur la partie sportive, puisqu'elle était beaucoup moins terrain. Elle s'occupait de tout le reste au niveau de la communication des institutions, etc. Et puis voilà, ensemble, on a monté toute l'aventure. Et ça aussi, ça a été très, très, très apprenant. C'est-à-dire que ça a été une expérience incroyable. Ça a été des rencontres avec plein de boîtes. Ça a été aussi des rencontres sur le terrain au niveau technique. Voilà, j'ai fait ça pendant 8 ans. Et après, au bout d'un moment, c'est un peu redondant.
Oui.
Et puis, je suis partie pour mes propres événements. Mais non, ça a été une très belle expérience.
Et toi, tu cours toujours?
Là aussi, ça a été aussi beaucoup d'ouverture à des entreprises, de sensibilisation. On s'est introduit dans les entreprises aussi grâce à ce projet.
Bien sûr. Et tu cours toujours, toi?
Je cours toujours.
Ouais. C'est une vraie piqûre, on dit.
C'est une vraie piqûre. C'est un mode de vie aussi. C'est ce qui, en tout cas moi, c'est ce qui m'a apporté aussi, je ne sais pas si je vais dire de l'équilibre, mais en tout cas, je me sens bien. Je me sens bien. Hier, j'étais courir très tôt le matin. Juste après, j'ai appelé un ami. Je lui ai dit, j'ai retrouvé, parce que là, pendant quelques temps, j'avais moins couru. Et je lui ai dit, ça y est, j'ai retrouvé les belles sensations de la course. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre souvent. C'est ces belles sensations de la course le matin, on commence, on ferait sa journée Et puis c'est vrai que à un moment donné, quand on commence à aller vers des marathons, des semi-marathons, etc., ben, on n'en finit jamais. C'est-à-dire que c'est jamais assez. Mmh. Et on a envie de recommencer, de recommencer. Et puis, c'est ce qu'on fait chaque année. Donc là, je repars encore sur une préparation cette année. Et parce que ça nous maintient, ça nous organise, ça nous challenge mentalement. Et puis, ça nous fait du bien.
Mais quand
en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et je fais plein d'autres choses à côté. Je fais du renfo, du yoga, etc. Mais le plaisir de la course, je l'ai retrouvé nulle part ailleurs. Donc, j'y tiens. J'y tiens. En plus, on a la chance à Casa d'avoir une corniche incroyable, mais vraiment incroyable. C'est-à-dire que ça va du Morocco-Mol jusqu'à la mosquée. Mm. C'est quand même dommage de s'en priver. On a de très beaux parcs. Vraiment, on a des terrains de jeu formidables aujourd'hui. On a plein de courses qui sont organisées à Casa.
Absolument.
Donc, il faut s'amuser. Donc, allons-y.
Allons-y,
transmettons.
Ouais.
Et...
beaucoup d'événements au Maroc en général.
Ça me fait beaucoup de bien. Ouais, ça me fait beaucoup de bien. C'est une sensation vraiment... unique. Moi, pour moi, elle est unique, cette sensation.
Alors,
de la course à pied.
Quand tu dis, en fait, que c'est un mode de vie, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que moi, je suis organisée pour que... D'ailleurs, mes amis, souvent, ils me disent « Bon, t'abuses ». Moi, je me couche tôt le soir, parce que le matin, à 6h, le réveil sonne. 6h30, je suis sur la corniche. Avant, c'était beaucoup plus tôt. Hein. Maintenant, je prends un petit peu plus de temps. 6h30, je fais ma séance, que ce soit du renfo, de la course, peu importe. Et ensuite, je démarre ma journée. Et ça, en fait, on se rend compte à quel point ça organise ses journées, ça organise son planning, que ce soit social, familial, professionnel, ça organise tout. Donc, ouais, il y a une forme. Du coup, après, ça devient un mode de vie.
Zineb Benouna, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et j'espère avoir le plaisir un jour d'aller courir avec toi sur la corniche de Casa.
Moi, je courais il y a quelques années, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu des petits soucis de douleurs lombaires, etc. Donc, je me suis mise au renforcement, j'ai bien renforcé. Et peut-être qu'il serait temps que je me remette à la course.
Une marche en bord de mer, c'est tout aussi agréable.
Eh bien voilà, écoute, Mahbabik à Tanger ou à Casa pour la marche en bord de mer.
Avec plaisir. Ça marche. Merci beaucoup.
Merci Zineb. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.